BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, on ne sait pas si c'est le réchauffement climatique ou l'explosion de notre dette qui nous détruira en premier. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles. Je commence fort. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va analyser les événements majeurs que marquaient la semaine et aussi le semestre, hein, puisqu'on est en fin de premier semestre. Qu'est-ce qui s'est passé comme truc depuis le début de l'année sur l'économie, la finance, les marchés, votre argent au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être guerre et paix. Et puis, on va introduire une petite rubrique, là, on va la tester avec vous, c'est mon parti pris de la semaine. Je vais affirmer un truc, évidemment, clivant, et puis on va voir comment vont réagir nos invités. Le chiffre de la semaine, c'est 1000 milliards de dollars, c'est devenu l'unité aux États-Unis, c'est la fluctuation à la hausse, puis à la baisse, en quelques jours, de la capitalisation de SpaceX. Ça a pris 1000 milliards après l'intro, en 3 jours, ça les a reperdus en 4 jours. Comme si c'était des roupies, 1000 milliards comme ça, créés et envolés. En deuxième partie de l'émission, où va la bourse au deuxième semestre de l'année? Comment on va finir l'année, hein? On a des gérants qui vont nous donner le niveau du CAC, surtout un qui adore donner des niveaux d'indices. On va lui demander où il voit le CAC à la fin de l'année. La question d'argent, quel est le placement de la semaine? Le top ou le flop? Le top 3 des gérants pour le premier semestre, les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant, Ah oui, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance et la championne olympique de incontestée de triathlon, économie, finance, taux d'intérêt, Valentine Hénouz. Vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Et pour ceux qui vous écoutent à la radio, vous êtes venus avec une superbe tenue blanche. C'est l'été.
C'est l'été.
C'est la forme. C'est notre... On peut créer énormément de valeur avec la bonne allocation d'actifs et ça tombe bien, c'est sa spécialité. Pascal Sévy, vous êtes directrice commerciale de la banque privée du groupe Lombard-Odier. Bonjour, vous allez nous donner l'allocation qu'il faut avoir pour partir tranquille en vacances.
Oui, et revenir serein à la rentrée.
Mais on veut surtout
et terminer
pas.
Noël dans les passer Noël dans les meilleures conditions.
Oui, c'est ouais, alors c'est pas mal. Alors là,
c'est pas mal, hein.
Moi je voulais juste l'été, mais là vous nous donnez tout. C'est notre Warren Buffett national. Il dirige une magnifique société de gestion qui affiche d'ailleurs des performances tout aussi magnifiques. Romain Burnand, toujours très bon cette année. Président de Monetarium, ça va,
on sourit.
On sourit chez vous, hein.
Oui, on sourit. Ceci dit, on n'est pas des fonds tech, on est très raisonnable. La hausse des fonds, c'est 10%, c'est pas 50% comme ça au Payette. Si on était spécialiste de secteur en
drogue, ça serait 50% et puis peut-être moins 50, hein. C'est simple avec lui, j'ai l'impression de comprendre l'économie et pour ceux qui me connaissent, c'était pas gagné d'avance. Denis Ferrand, vous êtes directeur général de Rex et Code. Bravo déjà de me faire comprendre l'économie. Je suis vos postes et puis après je répète ce que vous avez dit et puis j'ai l'air intelligent, c'est quand même sympa.
Oui, c'est sympa, mais bon, franchement, la base est déjà très bonne.
Ouais, c'est gentil. Allez, le mot de la semaine, guerre et paix. Quel début d'année, on a eu en quelques mois une drôle de guerre, on a maintenant une drôle de paix. On s'est aperçu que l'économie mondiale dépendait encore trop du pétrole qui dépendait trop du détroit d'Ormuz. On s'est aussi aperçu que l'économie mondiale dépend trop de l'économie américaine qui dépend trop de l'IA. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ce premier semestre? C'était dingue, non, Denis? Vous qui parlez à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise tout le temps, j'imagine que c'était quand même un peu la panique l'imprévu, quoi, total,
ouais,
le brouillard, quoi.
Ouais. C'est l'imprévu par rapport aussi à des mécanismes de propagation qui sont peut-être un petit peu compliqués parce qu'on se retrouve avec de l'activité qui est vraiment empêchée, c'est de l'activité physique qui est empêchée, c'est des approvisionnements qui ne se font plus et donc d'un seul coup il faut s'adapter en vitesse. Et c'est là où justement je trouve que la leçon principale de cette période, alors bon, c'est un terme tarte à la crème qui est employé tout le temps, mais franchement là c'est utile, c'est le mot résilience. Je suis quand même assez impressionné. Quand vous regardez, on a perdu 15% de l'approvisionnement du marché pétrolier, en potentiel. Hein, parce que bon, les pays de l'OPEP font à peu près 30% des exportations mondiales, mais tout ne passe pas par Hormuz. Hein, ça ne sort pas que par Hormuz, il y a aussi des oléoducs. On a perdu, donc grosso modo, il y a 15% qui ne pouvaient pas sortir. Donc, en général, quand vous perdez 15% d'un marché, c'est le choc de 73, celui de 79, c'était 10% du marché qui était bloqué. 10% des approvisionnements. Là, on en a perdu 15. Et on aurait dû avoir un prix du pétrole qui aurait dû monter à $250. À peu près. Bah, ça n'a pas été le cas. Ça a réagi très rapidement. Pourquoi ? Parce que l'économie s'est adaptée à une vitesse absolument incroyable. Ça a été l'augmentation de la production américaine, ça a été un peu de baisse de production, ça a été surtout de l'épuisement, ou en tout cas du prélèvement dans les stocks qui avaient été constitués. Et donc l'économie, en fait, a trouvé très rapidement ses palliatifs face à un choc incroyable.
Mais c'est pas le mot, c'est pas résilience, c'est peut-être plus ce que vous êtes en train de dire, c'est plus flexibilité, quoi.
Ouais. Oui,
et
tout à
capacité
fait.
D'adaptation, c'est ça qui est
exactement.
Très fascinant. Et puis, on en parlera avec Romain et avec Pascal, les entreprises aussi, cette capacité à aujourd'hui, parce qu'on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, qu'on a toujours.
Ouais.
On a eu la guerre en Iran et on a l'impression.
C'est vrai que les entreprises, en fait, surplombent les chocs. En fait, elles ont bien compris que désormais, on était face à ce qu'on appelle les permacrises. Enfin, là aussi, c'est un terme assez consacré. Les permacrises et venant d'éléments qui sont tout à fait inconnus, sanitaires, géopolitiques, enfin, vous les avez rappelés, hein, puis les changements technologiques. Et face à cela, si vous ne développez pas vos capacités d'adaptation, vous
d'accord.
Quand même
ça. Alors, ça, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, le choc qui a eu lieu, il a un impact sur la croissance.
Voilà, il a un impact sur la croissance et probablement.
Vous dites oui. Le pétrole n'est pas monté à 250 $. On va quand même perdre la moitié de notre croissance en Europe.
Oui.
On va peut-être perdre une partie de la croissance mondiale.
Effectivement, mais surtout, ce que l'on ne sait pas bien tracer, c'est précisément parce qu'il y a eu, à un moment, cette production qui est empêchée. Elle va petit à petit enclencher des pénuries qui vont se faire parce que ça ne se rétablit pas tout de suite. Vous avez parlé d'une drôle de guerre, mais c'est aussi une drôle de paix. Exactement. Quoi. Et donc, on ne va pas avoir un rétablissement des canaux qui va se faire très rapidement. Et donc, il va y avoir des productions qui vont se retrouver contraintes à un moment ou à un autre et il y a des effets de diffusion qui vont s'installer. Attention aussi à un autre élément que l'on ne regarde pas beaucoup, mais le taux de remplissage des réserves de gaz en Europe est très faible. Mmh. Et on est parti pour au 1er novembre, qui est le moment où on commence à taper dans les réserves de gaz compte tenu de l'hiver. C'est étonnant de parler de l'hiver en ce moment, mais bon, je vous rappelle qu'après la canicule, l'hiver reviendra. Eh bien, on est sur un taux de remplissage qui est exceptionnellement bas.
Qu'après la canicule, l'hiver reviendra. Ouais. Ça, c'est au moins un truc, c'est au moins une certitude.
Je pense, en tout cas, de toute façon, il faut bien aller jusqu'à Noël pour Pascal. Donc, attention, il y a d'autres pénuries qui peuvent se manifester et qui vont contribuer à des chiffres de croissance qui sont plus faibles que
contraintes physiques, nous dit Denis, mais aussi incertitude qui pèse encore sur l'activité, hein, qui pèse sur l'activité en Europe, qui pèse moins sur l'activité aux États-Unis, qui pèse sur l'activité en Asie.
Oui, mais globalement, on a une croissance mondiale, donc on attend toujours autour de 3%. Et moi, ce qui m'a marqué, certes, il y a cette histoire de hausse du prix de l'énergie, mais c'est aussi ce cycle d'expansion de l'IA et des surprises positives sur l'économie américaine. On a l'économie américaine, aujourd'hui, toutes les données économiques qui ont été publiées ont surpris positivement les investisseurs. Et cette économie, elle est tirée aujourd'hui essentiellement par l'IA. Si on regarde la consommation, c'est de l'effet richesse, les ménages consomment parce qu'ils font des performances positives sur les marchés actions. On a l'investissement, c'est l'investissement, l'économie aussi tirée par l'investissement grâce aux hyperscalers qui investissent aujourd'hui massivement.
Donc c'est ça votre surprise, vous, depuis le début de l'année.
Enfin, pour moi, ce qui est marquant, c'est cette surprise positive. Et dans un an, pour moi, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est jusqu'à combien de temps ce cycle de l'IA va pouvoir porter l'économie américaine. Pour moi, c'est la question qu'on doit se poser sur ce deuxième
parce
semestre.
Parce que du coup, ça porte une partie de l'économie mondiale, parce que ça porte l'économie coréenne.
Exactement,
on rappelle qu'il y a deux boîtes
aussi.
Coréennes qui font 50% de l'analyse. Ça porte l'économie japonaise. Ça porte en partie l'économie chinoise.
Exactement.
Alors, donc c'est un risque.
Pour moi, c'est vraiment un risque ou opportunité. Pour le deuxième semestre, si on regarde aux États-Unis, il y a cette partie de l'économie américaine qui cartonne. À côté, en parallèle, on a une partie de l'économie américaine qui est quasi en récession. Si on regarde les revenus réels des ménages américains, ils dégringolent. Les ménages américains, aujourd'hui, perdent du pouvoir d'achat. Si on regarde les taux de défaut sur les petites entreprises aux États-Unis, ça grimpe. L'immobilier résidentiel est quasi à l'arrêt. Donc, on a vraiment aujourd'hui deux économies qui s'opposent.
C'est la fameuse croissance en cas.
Mais la question qu'on doit se poser, combien de temps ça peut tenir? Parce que pour l'instant, on s'en tient et on est toujours sur... Et là, ce qui est très important, c'est que si on regarde les CAPEX, on va avoir des dépenses d'investissement solides cette année. Ils vont être encore solides l'année prochaine, mais avec un niveau de risque qui est très élevé. Les attentes des investisseurs sont élevées. Et moi, mon point clé, c'est le risque aujourd'hui aux États-Unis, c'est que pour avoir cette expansion des CAPEX qui sont aujourd'hui juste tirés par quelques grosses boîtes sur le reste de l'économie, faut des taux plus bas. Donc le vrai risque aujourd'hui, c'est si on a de l'inflation et la Fed ne baisse pas ses taux, pour moi, il y a un risque aujourd'hui sur la croissance américaine.
On va parler, Pascal, qu'est-ce qui vous a marqué sur l'économie au premier semestre?
Ce qui m'a marqué, c'est qu'on a commencé l'année avec un ciel plutôt clément, pas de récession prévue, une croissance qui se tient, des banques centrales plutôt accommodantes et des perspectives sur la croissance des bénéfices par action qui sont très encourageantes. En plein milieu, on fait une guerre quasi mondiale qui implique la plus grande puissance au monde, un choc pétrolier, même si ça ne monte pas à 250, on a quand même eu des petites craintes. On termine ça, la drôle de paix, comme vous l'appelez. Et puis finalement, c'est la même chose qu'en début d'année. Le seul petit bémol, en effet, c'est que les banques centrales sont peut-être un peu moins accommodantes, puisqu'on a quand même eu une hausse de taux, peut-être une seconde côté BCE et une Fed en pause, mais il n'y a pas de changement de braquet manifeste. Donc, on reprend les mêmes ingrédients. La croissance qui reste résiliente pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées.
Aux
les résultats des entreprises.
Pas en Europe, quand même.
On n'est pas en récession non plus, dans aucune des zones, ni Chine, ni Europe. Il y a des zones de faiblesse, bien entendu. Mais on continue avec les mêmes ingrédients. Et surtout, c'est vraiment la micro qui tire et la macro et les marchés cette année. Et ça reste encore avec des bénéfices par action qui se tiennent extrêmement bien par cette vague colossale d'IA et de CAPEX.
Romain, Denis soulignait la résilience des dirigeants d'entreprise. Vous le ressentez, vous êtes en contact tous les jours avec des dirigeants d'entreprise. Comment ils ont traversé cette période?
Bon, ils traversent la période. Alors, il y a toujours une forte attention sur les coûts. On parlera de l'inflation, mais effectivement, les sociétés ont pour toutes des objectifs de coûts, d'externalisation des services, et aussi une forte attention, et on en parlera aussi avec l'inflation, sur la capacité à répercuter très rapidement la hausse des prix, la hausse des intrants dans leur prix de vente. Ce qu'ils ont appris avec la guerre en Ukraine. Et donc là, c'est allé très vite, et il y a cette volonté parfois de privilégier les prix et les marges par rapport au volume.
D'accord.
Mais pour revenir sur la remarque de nos confrères, ce que je vois quand même dans le cycle économique actuel, c'est sa grande dépendance que vous avez souligné à la hausse du marché. Donc la hausse du marché, bien sûr, se nourrit
la hausse des marchés financiers.
Des marchés financiers se nourrit des bonnes nouvelles, se nourrit des résultats qui sont importants, mais elle
favorise la
consommation. On voit l'effet richesse, on voit les ventes de produits de luxe aux États-Unis, c'est des niveaux très forts. Alors ça nous concerne, nous, plus français que l'économie en général, mais quand même la hausse des dépenses des consommateurs aisés, et aussi le financement des investissements ne pourra venir que par les marchés. Et donc, il ne faut pas que la chose s'enraye, comme vous l'avez souligné, la croissance des investissements en IA tire l'économie, mais encore faut-il que ces investissements puissent être financés.
Et qu'ils soient rentables un jour.
Alors, qu'ils soient rentables un jour, déjà, le marché commence à en douter,
ouais.
Puisqu'on voit que les ceux qui engagent ces investissements sont ceux qui, en général, pâtissent par rapport à ceux qui fournissent les matières de ces investissements.
Denis, vous vouliez...
Oui, je voulais ajouter un point sur la répercussion très rapide dans les prix des chocs de coûts. Effectivement, ça, c'est vraiment la leçon de 2022. On l'a vu dans beaucoup d'entreprises. Et puis, le deuxième point sur la consommation américaine. Vous avez vu cette étude de Moody's qui évaluait à peu près à 50% de la dépense en consommation des ménages faite par les 10% les plus riches aux États-Unis. C'était 33% il y a 20 ans. Donc, pendant combien de temps est-ce qu'on a cette croissance en casse? C'est vraiment une dispersion énorme à l'intérieur de cette économie américaine.
Et s'il a fait monter taux, pour moi, ça va exacerber ces fragilités de l'économie américaine et limiter.
Alors, justement, on va en parler parce que c'est mon parti pris de la semaine. Ma préoccupation pour l'avenir, ce n'est pas l'inflation, c'est la déflation, Denis.
Mais...
Entre la démographie, l'IA, la robotique, l'abondance de pétrole, le ralentissement de la croissance mondiale, je m'inquiète plus de la déflation que de l'inflation. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, Denis?
Alors, sur la robotique, sur l'IA, ces éléments-là sont des éléments désinflationnistes, plutôt à moyen-long terme. C'est-à-dire, il faut regarder quand même la temporalité, parce qu'on l'a évoqué.
La démographie, c'est aujourd'hui.
Mais la démographie.
En Corée, c'est aujourd'hui. Mais au Japon, c'est aujourd'hui.
Mais pour moi, la démographie a quand même un peu plus un potentiel inflationniste. Je fais plutôt du tenant des thèses à la Charles Goodhart, qui était un ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Banque d'Angleterre, qui avait justement évoqué combien, en fait, par la transformation de l'économie que cela induit, par le fait que vous avez besoin de main d'œuvre extrêmement abondante sur des activités qui génèrent
de la
productivité.
C'est très vrai quand il n'y avait pas l'IA. Il n'y avait pas la robotique.
Ouais, mais en même temps,
même,
sur les services
j'ai
à la
découvert ce chiffre. J'ai découvert ce chiffre complètement dingue de 1 000 robots pour 10 000 salariés en Corée.
Ouais. C'est-à-dire qu'on a une robotique qui est en train d'exploser.
Oui, mais est-ce que vous les avez aussi dans les activités, par exemple, de service à la personne ? Certainement en partie, et on le voit.
Pour l'instant, on est dans l'industriel, mais on va l'avoir. Oui.
Mais ça viendra peut-être.
Donc vous dites un peu pas.
Non, je dis que, en fait,
vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc.
Bah, oui.
Non, vous pouvez, vous reviendrez pas, mais c'est pas grave.
Non, mais c'est pas grave.
C'est le principe.
Je vais l'affirmer encore.
Alors allez-y.
Non, mais surtout.
De toute façon, vous êtes grillé, donc allez au fond du.
Donc autant lâcher toutes les cartouches. Mais peut-être, je pense qu'il y a quand même un cheminement. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qui se passe actuellement sur le prix des semi-conducteurs. Plus 26% sur les prix des semi-conducteurs, parce que tous ces afflux d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle, ça draine une demande sur des biens qui est absolument exceptionnelle. Quand il y a eu la vague Internet à la fin des années 90, début 2000, on était sur le moment où ces prix de l'électronique baissaient. Et ça n'a pas empêché quand même des investissements qui ne se sont pas réalisés. Là, les projets d'investissement dans l'intelligence artificielle, ils n'ont pas été faits avec des hypothèses de prix des investissements, des prix des CAPEX qui faisaient plus 26%. Ils étaient faits avec l'hypothèse. Et donc, on est quand même sur une zone extrêmement fragile. Donc, on a de l'inflation locale à court terme, mais qui n'empêche pas qu'à long terme, on aura plutôt par l'intelligence artificielle, parce que ça va faire du gain de productivité, de la désinflation qui peut intervenir.
Donc, vous dites plutôt inflation pour l'instant, avec de la désinflation à venir, mais pas de déflation.
Non.
Bon, Valentine, vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi ?
Je vais nuancer. Le débat en Europe, il y a moins de débat.
Il n'y a pas de nuance dans cette émission.
Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de débats sur cette trajectoire de l'inflation. Je parle pour moi des deux prochaines années. Hein. On va mettre quand même un terme. L'inflation aujourd'hui, elle s'explique par trois chocs. On a eu la hausse des droits de douane, prix du pétrole et ce cycle sur l'investissement. Si on regarde les moteurs, droits de douane, prix et droits de douane, hausse du prix du pétrole, le choc, il est derrière nous. Maintenant, on va avoir de la désinflation à cause de ces deux chocs. La question se pose maintenant sur ce cycle d'investissement énorme sur les CAPEX. Déjà, ce cycle, il est monstrueux. L'année prochaine, c'est 1000 milliards, c'est 3% du PIB. Et on voit aujourd'hui déjà des pressions sur certains segments, prix de l'électricité, le prix des semi-conducteurs, le prix de certaines matières premières pour la transition énergétique. Il y a des hausses de prix. Ça, c'est pas de l'inflation, c'est des hausses de prix sur certains segments. Pour moi, on bascule vraiment dans une histoire. Ce cycle d'investissement dans l'IA amène de l'inflation. Si ce cycle dans l'investissement dans l'IA, pour moi, à cause de cet effet richesse, amène à une demande accrue sur les services. Et c'est là où vraiment on voit le risque aujourd'hui. Si on regarde l'évolution du prix sur les biens aux États-Unis, on est à 1% de croissance sur les prix. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui une consommation aux États-Unis qui est faite par les plus riches. Et les pressions sur les prix, c'est beaucoup plus sur les services, sur le luxe, que sur les biens standards. Il n'y a pas de pression sur les prix sur les biens standards. Donc pour moi, pour l'instant, nous, on n'est pas dans une histoire d'inflation. On est dans une histoire de désinflation, de retour à 2% à 2 ans. Pour moi, on bascule, on est faux si on voit des pressions sur les bas salaires, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui.
Peut-être juste un mot sur les prix des services, en tout cas en zone euro. Oui, il y a eu un petit peu d'accélération, mais c'est exclusivement les prix des services de transport.
Oui.
Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas du tout d'effet de capillarité jusqu'à présent qui s'est vu. Les prix des services de transport à cause des prix de l'énergie, à cause de cette hausse passée sur le prix du pétrole.
Romain, est-ce que les entreprises répercutent les hausses de prix déjà ?
Alors oui, elle les répercute de manière très très. Maintenant, il y a des contrats qui sont quasiment automatiques. Alors ça dépend des industries et encore faut-il que les clients acceptent ces prix.
Et donc on n'est pas dans l'ambiance de 2022.
Alors on n'est pas dans l'ambiance de 2022,
c'est-à-dire où on montait les prix et puis il y avait la demande ne baissait pas.
Je suis d'accord avec Valentine quand elle dit qu'il y a une différence entre l'Europe et les États-Unis où là il y a peut-être plus de capacité à augmenter les prix sur certains biens parce qu'il y a une demande qui est plus forte, mais on voit sur les sociétés. Enfin, on ne voit pas de baisse de marge dans les sociétés, au contraire, une forte confiance avec un accent sur les coûts qui, effectivement, reste fort. Des installations dans des pays, par exemple en Europe, dans les pays d'Europe centrale, externalisation de services importants qui continuent.
Mais j'ai noté un truc qui était quand même intéressant jeudi, c'est que Apple a dit qu'ils allaient augmenter leur prix. Hein. Le cours a baissé parce qu'on commence à rentrer dans le dur. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain prix, on commence à se dire maintenant, finalement, il y aura moins d'achats, ce qui n'était pas le cas en 2022.
Alors, moi, je ne crois pas à la déflation. La désinflation, oui, clairement, on est en train de la vivre. La déflation, j'y crois pas. D'autant plus que, si je puis me permettre,
il y a
une petite chose à ajouter dans votre analyse. Il ne faut pas oublier qu'on est en train aussi d'aller vers beaucoup plus de souveraineté, d'un monde qui est beaucoup plus fragmenté, moins de mondialisation, qui a quand même beaucoup de ressources qui sont assez rares aujourd'hui. On a parlé de la main-d'œuvre, mais pas que. Il y a des métaux rares aussi qui sont recherchés. Tout ça, ça crée de la pression sur les prix. Il y a régionalisation des chaînes de production, les investissements investissements massifs qui, à terme, vont peut-être, en effet, créer des pressions un peu déflationnistes. Mais en attendant, moi, je ne crois pas du tout à la déflation. Donc, je crois plutôt à une inflation qui va s'installer dans le temps, pas non plus sur des niveaux ingérables, mais en tout cas, clairement pas de déflation.
Denis, vous vouliez compléter.
Oui, vous avez dit tout à l'heure 2026, c'est pas 2022, et pour des raisons d'équilibre de marché. Une enquête que l'on fait chaque trimestre avec BPI France nous montrait qu'en 2022, vous aviez à peu près 60% des boîtes qui se déclaraient contraintes par une capacité à produire. Problème de recrutement, problème d'accès à de la matière première. Vous en aviez 30% qui se disaient contraintes par niveau de la demande. 2026, c'est exactement les proportions inversées. Et donc, dans un espace où la contrainte qui s'exerce est en premier lieu une contrainte de niveau de demande, là, je parle d'entreprise française.
Dire simplement, c'est-à-dire qu'en 2022,
il y avait de la place.
On sortait du post-Covid, il y avait énormément de demandes, et donc, il y avait la capacité d'augmenter les prix, parce que de toute façon, la demande était tellement forte. Là, c'est plus du tout le cas.
Exactement. Oui, là, on a vraiment basculé dans un autre environnement, et donc, qui laisse beaucoup moins de place pour avoir un cycle auto-entretenu d'inflation. Et maintenant, je suis d'accord avec Pascal, il faut faire très attention et que toutes ces réorganisations de chaînes de valeur, le de-risking vis-à-vis de la Chine, tous ces éléments-là qui sont au cœur des processus productifs sont plutôt facteurs inflationnistes.
Plus la transition énergétique qui vient aussi ajouter des facteurs plutôt inflationnistes.
C'est pas un cycle d'investissement traditionnel. Un cycle d'investissement traditionnel, c'est quand il y a beaucoup de demandes, il y a un manque de capacité de production, il y a des conditions de financement qui sont pas chères et que les entreprises, à cause de cette demande forte, décident de faire des dépenses d'investissement. Là, ce sont des dépenses d'investissement parce qu'on rentre dans un nouveau monde. C'est totalement différent.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, on fait de l'investissement, mais il n'y a pas encore...
cette demande en face encore. Il y a une demande, mais je dirais c'est pas pour répondre à une demande qui est très forte, c'est une demande qui est attendue. Donc c'est totalement différent. Et en plus, les gains de productivité.
C'est le propre de l'investissement dans une révolution industrielle.
Exactement. Et en plus, ces gains de productivité, ils vont quand même être faits au détriment du marché du travail. Hein. Même si on a une amélioration du marché du travail aux États-Unis aujourd'hui, c'est juste sur ces segments de services à bas revenus, la restauration, l'hôtellerie, etc. Ce qu'on voit dans le secteur de la tech, dans le secteur des services financiers, c'est qu'il y a un recul des embauches.
Vous êtes spécialiste des taux. Votre anticipation sur les taux en Europe et aux États-Unis?
Pour moi, les banques centrales, aujourd'hui, vont devoir rebaisser leurs taux à horizon de 2027. Là, elles sont en mode pause. On aura peut-être en mode pause parce que aujourd'hui, on a un pic d'inflation.
Il y a un risque que la BCE fasse une deuxième erreur et remonte encore ses taux d'intérêt.
Il y a quand même une espèce de mea culpa de la BCE aujourd'hui. Et avec cette
baisse du prix... Mea culpa, je ne l'ai pas entendu, moi.
Quand même, ils ont dit que les risques d'effet de second tour étaient quand même beaucoup moins importants. Pourquoi ils ont monté les taux? Ils ont, pour une question d'assurance. Ouais. Bon, on est d'accord, je pense qu'on partage tous la même opinion sur cette hausse des taux de la BCE. Mais cette baisse du prix du pétrole aujourd'hui, si elle est confirmée, limite quand même vraiment le risque d'avoir une nouvelle hausse des taux de la BCE en septembre. Et pour moi, la Fed, elle va devoir à nouveau baisser ses taux fin de l'année prochaine.
Il fait un bon boulot, le patron de la Fed, parce qu'en fait, il monte pas ses taux, mais il tient un discours qui est très ferme en disant « retenez-moi, je vais monter les taux », mais il ne fait rien en fait. Ouais. Et du coup, ça rassure les marchés, il n'a même pas besoin de remonter les taux.
Ouais, pour une raison très simple, c'est qu'il a besoin de montrer son indépendance.
Qu'il n'a pas.
Donc, entre nous, c'est à peu près la même chose du côté du gouverneur de la Banque de France, qui a révisé drastiquement les prévisions de croissance à la baisse, parce que là aussi, c'était pour montrer une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Enfin, les banques centrales sont aussi toujours dans ce...
Mais elles ne sont pas indépendantes, on est d'accord ou pas?
Si, plutôt.
Non mais attendez, Kevin Warsh, il n'est pas indépendant, c'est Trump qui...
Il doit montrer quand même des gages d'indépendance, ça c'est quand même...
Dans le discours, pas dans les actes, c'est facile, c'est ce qu'il fait, non
d'accord. Mais je pense qu'il va tout faire pour essayer de retenir, de pas avoir la main, de montrer qu'il n'a pas la main qui tremble, c'est tout.
Il y a une sentence qui est très simple, indépendance, pas indépendance, pour moi le débat, je ne sais pas s'il doit y être, il y a une sentence qui est très simple des marchés. Si les marchés sentent que les banques centrales ne sont plus indépendantes, on a une hausse des anticipations d'inflation. Donc, je veux dire,
vous pensez vraiment que les marchés pensent encore que les banques centrales sont indépendantes? Non, vraiment?
Les marchés sont convaincus aujourd'hui que les banques centrales, à moyen terme, ramèneront une inflation à 2%, que les banques centrales feront leur job.
Vous ne pensez pas qu'ils se disent que l'inflation elle va retourner à 2% naturellement parce qu'ils sont pas idiots, ils savent que si le prix du pétrole rebaisse, l'inflation...
Pour moi, ce concept d'indépendance, il est un peu spécial. Si, par exemple, on a aujourd'hui en Europe, si on avait mené dans cette crise énergétique une politique coordonnée et très forte de soutien à la demande, eh bien, la BCE aurait beaucoup plus dû augmenter ses taux. Donc, pour moi, il y a une dépendance implicite du fait de l'action budgétaire, l'action monétaire. D'une certaine façon, elles sont coordonnées, elles ont des conséquences les unes sur les autres. Donc, parler d'indépendance, pour moi, c'est voilà, elles doivent faire leur job. Les acteurs économiques doivent être confiants que les banques centrales fassent leur job pour ramener à moyen terme l'inflation à 2%. Et dans ce sens-là, oui, elles sont indépendantes.
Alors, sur le parti pris, Romain était très prudent parce qu'il va revenir à la prochaine saison. Valentine, Pascal et Denis, je vous dis au revoir. Vous restez pour la deuxième partie, puis après, je vous souhaite un bon été. Et puis restons quand même en contact. On s'appellera de temps en temps. On se retrouve en deuxième partie de l'émission encore avec ses invités. Avec, on va se demander où va aller la bourse. On a Romain qui va nous donner le niveau du CAC à la fin de l'année, le placement de l'année, le top ou le flop, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre.
BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission avec des invités que vous ne verrez plus puisqu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Vous connaissez le principe de l'émission. Si on n'est pas d'accord avec moi, on ne revient pas. Denis Ferrand, vous l'avez accepté. Vous avez signé quand venu.
Non, mais c'était
Romain,
sympa.
Il est très très prudent. On voit que c'est.
Non, j'avais justement pas d'opinion sur l'inflation.
Voilà,
j'avais des soucis.
Donc lui, il ne s'est pas brillé. Pascal a dit elle est franco. Elle n'a pas vu le danger. Valentine aussi. Vous n'avez pas vu que c'était une question piège. Allez, on passe tout de suite au marché. Les marchés cette semaine. Bon, c'était un peu mou du genou hein, sur le Nasdaq, le S&P. Par contre, depuis le début de l'année, c'est quand même la fête. Hein. Nasdaq en hausse quand même de 10% toujours. Le CAC en hausse de 4%. Le Nikkei 40% de hausse. On parle même pas de l'indice de Corée. On en a parlé en première partie d'émission. Je voudrais juste revenir, je vais me retourner vers vous, Romain. SpaceX, je sais que c'est pas votre domaine. Je sais que vous regardez pas ça. Mais quand même, quand vous voyez... 100 fois le chiffre d'affaires, introduction de 1000 milliards, 1750 milliards, ça atteint 2000 milliards, tout ça sur un sonome, avec un narratif, avec une boîte qui perd de l'argent, qui a probablement du potentiel, le gars est un génie, avec 1000 milliards de valeurs qui sont créées en 3 jours, et puis 1000 milliards qui s'évaporent en 3 jours. Vous, qui êtes un vieux de la vieille comme moi des marchés, vous vous dites quoi ?
Ben moi, je regarde les cours de SpaceX tous les jours, même parfois 2-3 fois par jour, non pas parce que j'en ai, mais parce que c'est un baromètre de l'état de spéculation sur les marchés. Et c'est vrai que vous parlez de génie, les investisseurs sont beaucoup enrichis ces dernières années, et il y a vraiment un engouement des particuliers pour l'investissement en actions, et le montage de l'introduction en bourse a été fait pour permettre effectivement à ces investisseurs particuliers d'y participer, et permettre après, comme vous le savez, aux indices d'intégrer rapidement SpaceX dans des pondérations relativement importantes. Donc ça, c'est pour moi un vrai baromètre de ce qui se passe, de choses un peu extraordinaires sur un marché.
Mais vous êtes gérant, vous évaluez la valeur des entreprises.
Oui.
Vous vous dites ça, je sais pas faire.
Alors ça, à la limite, on aurait pu faire un petit pari sur SpaceX. Enfin, c'est pas notre rôle, hein, mais c'était quand même bien construit pour que ça monte.
Les premiers jours.
L'important pour SpaceX, c'est est-ce que ça baissera ça passera en dessous des $135 et est-ce que ça ira pas profondément. Donc, vous avez dit génie. Et en parlant de l'introduction de SpaceX et peut-être de son initiateur.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a un économiste, Galbraith, qui dit que le génie précède la chute. C'est-à-dire quand il y a un grand consensus sur un génie, sur une opération incroyable, sur un événement incroyable, on a eu 16 ans de marché haussier hein, depuis la crise financière. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes de marché, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, et ça s'accélère, on a eu les droits de douane, on a eu les droits d'Hormuz, et chaque fois les gens sont sortis avec encore plus d'enthousiasme, et donc les investisseurs sont très investis, les particuliers aux États-Unis, ils n'ont jamais été autant investis dans le marché des actions. On voit les transactions boursières des particuliers augmentent partout dans le monde, et on voit aussi des effets, des impacts à effet de levier. Donc les gens visent le levier. Donc on est dans une économie effectivement un marché où les gens sont très très confiants, très spéculatives, et où la valeur ne veut plus dire grand chose parce qu'effectivement il y a des dispersions de valorisation extrêmement fortes comme on les avait à la fin des années 90, au début des années 2000, entre les valeurs d'avenir et les valeurs du passé.
Ouais.
Hein, on avait dans les valeurs du passé, on avait des valeurs qui sont, et dans les valeurs d'avenir, des valeurs qui sont devenues aujourd'hui des valeurs du passé.
Hein. Ouais, qui ont disparu.
Donc, qui ont disparu, ou qui sont, les télécoms étaient supposés être des valeurs d'avenir, et puis c'est devenu des utilities.
Est-ce que vous êtes en train de nous envoyer un signal en disant il y a une bulle, elle va exploser?
Alors, il y a une bulle, ça c'est clair. Ben, pour moi, c'est clair qu'il y a une bulle. Toutes les questions des bulles, alors, si les clients veulent, si vous voulez, vos auditeurs veulent savoir ce que c'est qu'une bulle, il faut qu'ils regardent, qu'ils lisent ce Absolument. Petit livre. Ouais. C'est un petit livre qui est pas très important. Absolument. Brève histoire de l'euphorie financière. C'est quelques exemples. Et surtout, c'est un livre qui étudie les phénomènes passés de bulle et la psychologie des Absolument. Acteurs. Et la psychologie des acteurs, c'est souvent de considérer que les gens qui sont puissants, qui ont de l'argent, sont beaucoup plus intelligents financièrement que les autres. Et nous sommes tous puissants avec de l'argent, mais nous savons que nous ne sommes pas plus intelligents que les autres. Nous avons parfois plus d'intelligence ou plus de recul, et c'est une manière de gérer. Donc effectivement, on est dans un environnement qui est un environnement un peu dangereux. D'ailleurs, Trump s'en aperçoit bien. Chaque fois que la bourse baisse, il fait en sorte de prendre des mesures pour qu'elle remonte, et il lâche du lest, notamment, on l'a vu dans la guerre en Iran, s'il avait pu obtenir...
Est-ce que vous nous dites quoi, alors? Vous nous dites, moi je suis petit actionnaire, je regarde des missions, j'écoute Romain Burnand, je fais quoi? Je sors de la bourse.
Alors, je ne sors pas de la bourse.
Je vous entends, ça fait peur. Parce qu'on se dit, OK, parce que je comprends le raisonnement de dire il y a des boîtes qui ne sont pas chères et puis il y a des boîtes qui sont chères. Et si celles qui sont chères qui vont exploser. Mais on avait vu en 2000 que quand tout a explosé, tout a baissé. Même les bonnes valeurs fondamentales.
Pas forcément.
Pas forcément.
Pas forcément. Alors, tout n'a pas baissé. Okay. Au contraire, en 2000, c'était le cycle de la croissance qui explosait en vol. Et les investisseurs value ont eu une performance. Alors, ils ont en 2000, ils ont plutôt maintenu le capital. Donc, tout n'a pas explosé. Au contraire. Et on voit dans les séances où le marché aujourd'hui, par exemple aujourd'hui,
le vendredi,
ou ces jours derniers, quand le SpaceX baisse ou dans les microprocesseurs baissent, les valeurs un peu traditionnelles, style Danone, style Vinci, monte.
Ah, d'accord.
Donc vous avez toujours un arbitrage entre l'économie de demain et l'économie d'aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui est assez... Donc je ne dis pas chose qui peut, parce que les gens raisonnables partent trop tôt du marché. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des bulles. C'est parce que tous les gens raisonnables qui ont dit qu'il y a une bulle, enfin, qu'on est à la fin de la bulle, il y a une bulle, mais la bulle, elle peut gonfler. Elle peut
Petit continuer. Hommage à Alan Greenspan, qui a disparu cette semaine. Mmh. Il avait quand même dit, en décembre 96, il y a une exubérance irrationnelle. La bulle a explosé qu'en mars 2000. Hein.
Voilà,
c'était 4 ans en avance. Hein.
C'est un excellent exemple, effectivement. Les gens raisonnables le disent toujours trop tôt.
Excellent exemple. Vous avez compris pourquoi il revient.
Je reviens depuis 20 ans.
Mais voilà, vous avez compris. C'est quand même pas compliqué. Il suffit de dire que j'ai dit un truc intelligent et être d'accord avec moi.
Même remarquable. C'était même remarquable. C'est un hommage à Greenspan, tout en remarquant, en allant dans mon sens, franchement. Tout va bien. Mais c'est toujours.
On va co-présenter l'émission à partir de la rentrée.
On l'a vu dans tous les cycles. Je sais pas si moi j'ai vécu comme analyste un cycle de immobilière en France. Qu'on a vécu dans d'autres pays, aux États-Unis. Je me souviens, un professeur m'avait dit, regardez les bulles, il y a des articles de presse comme quoi il y a une bulle, mais pourtant la bulle, elle éclate 3-4 ans après.
C'est ça.
Il y a eu sur la bulle immobilière aux États-Unis, il y a eu ça. Sur la bulle immobilière en France, il y avait une tout le monde disait, c'est évident que l'immobilier monte, parce que tout le monde ne pourra pas se loger à Paris. Quand il y aura on est en train de créer l'Europe dans les années 90, voilà, tout le monde ne pourra pas...
Et on a eu
donc du coup, on en est dans des questions de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français pour acheter un mètre carré à Paris avait baissé de 50% en quelques années.
Ouais.
Et donc voilà, celui qui avait aperçu ça pouvait se dire, c'est pas le moment d'acheter. Donc on est.
Donc vous dites on est dans la bulle, mais on ne sait pas quand elle va éclater. Donc vous nous avez
on
pas
dans
beaucoup.
Une bulle,
vous nous avez pas beaucoup éclairé. Hein.
On vous a pas beaucoup éclairé parce qu'on sait qu'on est dans un sentiment où la psychologie est très importante.
Pascal, vous dites quoi? Vous dites sauf qui peut.
Alors, juste, je voudrais revenir juste un instant sur les introductions en bourse, puisqu'il va y en avoir d'autres à venir. Vous avez cité un économiste, je vais en citer un autre. Moi, l'IPO, ça me fait un peu penser à Keynes, qui comparait la bourse à un concours de beauté. Et ce qu'il disait, c'est pas la plus belle qu'on va choisir, on veut deviner laquelle les autres vont choisir. Pour moi, l'IPO, c'est un peu ça. En fait, on va pas forcément, tous les investisseurs vont pas forcément aller analyser l'entreprise sur ses valeurs intrinsèques, mais c'est une perception finalement. Et c'est pas la même chose que quand on regarde les marchés au jour le jour. Et d'ailleurs, si vous regardez les 10 plus grosses IPO aux États-Unis par taille, un an après, elles sont toutes négatives. Le cours de bourse est négatif. C'est quand même impressionnant.
Et mais si vous regardez à 4-5 ans, la plupart sont revenues en hausse.
Ça dépend desquelles.
Ah bah, quasiment toutes.
Moi, je vous redonnerai la statistique si vous me permettez de revenir. Ce qu'on constate aussi, aujourd'hui, les fonds de non-coté, ils sont quand même beaucoup plus popularisés. Il y a quand même beaucoup de ces entreprises qui créent beaucoup plus de valeur quand elles sont privées, dans le domaine privé, que quand elles deviennent publiques.
Il y a un mec que vous allez énerver, là. Il ne faut pas dire ça à Romain Burnand, il ne faut pas lui parler de private equity, surtout en ce moment.
Non, mais c'est une réalité. Nous, ces boîtes-là, on avait la chance de les avoir, notamment, sur les marchés.
Oui.
Non, pas sauf qu'il peut sur les marchés. On a 4 ans, a priori, si j'ai bien retenu la leçon, avant que la bulle éclate. Pas sauf qu'il peut sur les marchés, parce que aujourd'hui, on a quand même toutes les forces qu'on a évoquées avant, les investissements, la vaguilla, etc. C'est quand même bien réel, ça fait de la performance en bourse, et il y a encore beaucoup de perspectives. Donc nous, on n'est pas du tout en sauf qu'il peut, on n'est pas non plus à prendre des risques inconsidérés, mais notre exposition action, elle est encore légèrement surpondérée aujourd'hui.
Ce qui est très intéressant, c'est que pour une fois, d'habitude, on a le macro d'un côté, et puis la bourse de l'autre.
Exactement.
Et là, en fait, vos deux sujets sont incroyablement liés, parce que votre sujet à vous, les taux d'intérêt, la croissance, dépend d'eux.
Maintenant, nous, en comité taux, on regarde les actions. Il y a toute une partie maintenant dans notre comité où on étudie maintenant qu'est-ce qui se passe sur les actions. Vraiment, j'ai dédié une partie du comité au marché actions. Ce qui est pour moi intéressant et ce que je retiens, c'est la cyclicalité de l'économie américaine est aujourd'hui extrêmement importante. Le potentiel de hausse, le potentiel de baisse de cette économie est important. Tous les acteurs économiques aujourd'hui sont extrêmement engagés. Les montants d'investissement sont colossaux pour l'année prochaine, c'est 3% du PIB. Les ménages américains sont très très investis en actions. Ils ont 40% de leur patrimoine qui est en actifs financiers. Les entreprises, ces grandes entreprises de la tech, prennent aussi beaucoup plus de risques. Elles ont changé de modèle économique.
Empruntent de l'argent alors qu'elles avaient énormément de trésorerie.
Elles avaient énormément de trésorerie, pas de capital. Elles rachetaient leurs actions. Aujourd'hui, elles investissent massivement, ont des besoins de financement colossaux sur le marché actions, sur le marché de la dette. Et on a aussi l'État américain qui est aussi très lourdement engagé dans cette course à l'IA, avec des niveaux de déficit élevés. Donc aujourd'hui, pour moi, ce que je veux mettre en avant, il y a une bulle ou pas bulle, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des déséquilibres importants. Mais c'est pour moi, l'économie entière américaine est engagée.
Vous êtes d'accord avec ça, Denis? Ça devient de la macro?
Oui, ça devient de la macro, oui, tout
vous
à fait.
Vous qui ne connaissez rien à la bourse, vous regardez la bourse? Vous regardez
Je ne comprends pas, des actions, des obligations.
Mais vous regardez maintenant, vous êtes obligé de l'intégrer maintenant dans vos modèles.
Oui, tout à fait, oui, bien entendu. Et parce que, en fait, ça a créé des phases de rupture, et je vais faire mon pédant, et à mon tour, je vais ajouter une référence bibliographique, c'est vraiment Carlota Pérez, je pense que c'est vraiment l'auteur qui est utile pour comprendre ce qui est en train de se jouer.
Valentine, il faut que vous en trouviez une.
C'est les thèses évolutionnistes qui disent qu'il faut passer par une phase d'éclatement de bulle. Après, il y a une phase d'exubérance. Quand vient une nouvelle technologie, quand vient un changement des modes de produire, il y a une phase d'exubérance qui se traduit par des emballements qui n'ont aucun sens. À un moment, il faut purger, mais ça n'empêche que parce qu'il y a cette purge qui intervient à un moment, se révèlent ceux qui structurent l'organisation des techs. C'était exactement ce qui s'était passé dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'on a eu une explosion des valeurs tech.
Vous n'êtes pas rassurant, tout ça.
Chute de la valeur, et puis à la fin, mais quelles étaient les plus grosses capitalisations? C'était Google, c'était Apple. Et donc, il faut passer par des phases où se fait le tri entre les bonnes solutions. Et là où il y a un problème, c'est que dans l'intelligence artificielle, il y a une versatilité qui est incroyable. Il y a un an, c'était ChatGPT, après c'est Gemini, maintenant c'est Claude, qui est la bonne...
Et puis même, on peut aller plus loin que ça, parce que Romain, vous parliez de ces fonds spéculatifs, ils étaient sur Bitcoin, il fait plus rien, il est même descendu en dessous des 60 millions. On a l'impression que l'argent se déplace du truc le plus chaud de la semaine, c'est-à-dire que c'était les big tech, après c'est SpaceX, maintenant il est sorti de SpaceX, parce que maintenant c'est revenu au cours d'intro, on ne sait pas sur quoi il va aller, ça c'est quand même...
C'est dans votre bouquin, ça Alors, c'est pas dans le
bouquin. C'est pas vous qui l'avez écrit.
C'était en 90 par John Calbraith, qui est un spécialiste de la crise de 1929. Non, on l'a vu sur la défense.
Ouais.
Vous voyez, le règne métal, tout le monde visait la défense, souveraineté, Rheinmetall est 50% plus bas que son cours le plus haut, après avoir baissé 20% cette semaine.
Très rapidement, le placement de la semaine, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pascal, qu'est-ce que vous nous conseillez ou dans votre allocation, c'est quoi aujourd'hui?
Alors, plutôt que je vous donnerai l'occasion si on a le temps, mais ce que je voudrais mettre en valeur, allez-y, c'est peut-être 3 placements qui me semblent intéressants. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Les marchés émergents continuent d'avoir toute notre attention et on les joue à la fois par les actions et par des obligations émergentes, libellées en devises fortes. On ne joue pas les devises des émergents, mais c'est des obligations libellées en euros, d'accord, en dollars.
Quand la Corée fait 75% en 2025 et 100% en... Ouais. Ça ne vous fait pas peur?
Non. on continue à y aller. Ça se paye 7 à 8 fois les bénéfices.
Il y a deux boîtes qui font 50%
peut-être, mais ça se paye 7 à 8 fois les bénéfices. Le discount avec les pays développés, il est encore très significatif. On a 35% de discount quasiment sur les actions. Donc ça, on continue à y aller. Deux, on a commencé à initier des positions sur les small caps aux États-Unis. On estime qu'il y a un élargissement du cycle qui pourrait aussi être payant. Et on est aussi à quasiment un plus bas côté discount entre les small et les large caps. Et en trois, on a commencé à intégrer des financières aussi dans nos allocations. Parce qu'on a des taux qui nous semblent, en tout cas lambda par rapport aux financières, plutôt intéressants. On a des marchés des capitaux, on a parlé des introductions en bourse, mais des activités de trading qui sont vraiment soutenues. Et c'est un secteur qui nous semble encore en retard par rapport à ses pairs.
Les financières, ça vous parle ça?
Les financières, oui, bien sûr, ça me parle.
Le placement, vous avez quelque chose à nous conseiller
ou... Oui, oui, moi je serais, alors moi je suis plutôt européen par nature, et donc j'ai mes dents en Europe, alors j'irai peut-être, dans votre sens Pascal, j'irai vers les pays à plus forte croissance.
Okay.
Donc on a les pays, bien sûr, d'Europe centrale, on a aussi des pays comme la Grèce, c'est déjà largement joué sur l'Espagne. Mais ça, c'est des segments de la cote qui sont intéressants, car ils sont pas vraiment consensuels. Ils ont en revanche un fort bêta, mais c'est plutôt de l'économie traditionnelle. Et les financières là-bas sont des bons profits. Donc on a effectivement, on a bien des banques, Commerce Bank ou Eurobank, dans ces pays-là.
Intéressant. Top ou flop du semestre?
Mon top, c'était Kevin Warsh. Kevin Warsh, je trouve qu'il a magnifiquement joué au dernier comité de politique, au dernier FOMC.
Je trouve que c'est magique. Fort, le gars.
Ah ouais, je trouve extraordinaire.
Il fait rien, mais il dit
il a réussi à restaurer la confiance des marchés sur son indépendance par rapport à la Fed, tout en ne se prononçant absolument pas sur ce qu'il allait faire et en annonçant qu'il n'avait aucunement l'intention de se prononcer. Je trouve que les mesures fondamentales qu'il veut prendre sont très très bonnes, de refocaliser les marchés plutôt que ce que sur les membres du FOMC pensent sur les marchés. De refocaliser les marchés, regarder les données économiques et aussi sa politique de bilan, j'aime beaucoup. Vous préférez l'assouplissement monétaire via les baisses de taux que via l'assouplissement du bilan. Je trouve que c'est essentiel aujourd'hui quand on a parlé de tous les déséquilibres de l'économie américaine et de cette partie de l'économie américaine qui souffre aujourd'hui et qui dépend beaucoup des taux courts.
Je vais vous regretter parce que je suis d'accord avec vous, Pascal.
Ah, c'est très drôle, j'ai le même et moi je l'ai tourné version flop pour Trump.
Allez.
Pour la même raison en fait. Bah, parce que typiquement, Trump, pendant des mois, on a débattu l'indépendance de la Fed, il va virer Powell, il va placer ses pions. Au final, il se retrouve avec quelqu'un qui est plus faucon encore que pouvait l'être.
Dans les paroles.
Oui, dans les paroles.
Mais dans les paroles. Mais ce qui compte, c'est les actes.
Mais le dollar s'est renforcé. Il n'y a pas de baisse de taux pour le moment. Donc Trump, là, pour moi, c'est un énième flop pour lui.
Il a je pense qu'il y aura une baisse de taux.
Oui, mais pas parce que Trump le souhaite. Ils feront peut-être une baisse de taux parce qu'à un moment, ce sera l'indépendance du monsieur, pour le coup, qui va décider de ça.
On verra. Romain.
Alors moi, je vais prendre quelque chose, je vais prendre un top et ça va pas être vraiment sur les marchés. Ça va être sur le changement de rapport de force entre l'Ukraine et la Russie.
Ouais.
Vous m'avez dit sur le semestre, on y est vraiment sur le semestre. L'année avait c'était mal terminé l'année dernière, c'était mal terminé. La guerre en Iran était vraiment une mauvais pour les Ukrainiens parce que ça détournait l'attention et ça détournait les questions, ça faisait monter le prix du pétrole qui est effectivement positif pour la Russie. On a eu plusieurs signaux, on a eu effectivement le départ d'Orban de Hongrie qui a permis de débloquer les 90 milliards d'euros de fonds de soutien des Européens à l'Ukraine. Donc l'Ukraine s'est retrouvée en meilleure position par rapport au soutien de ses alliés. Et en revanche, l'Ukraine a réussi à relativement bien détruire des sites pétroliers et surtout
des infrastructures et des ponts. Ils ont changé le cours de la guerre, mais pas simplement la guerre en Ukraine, de la guerre mondiale, de la guerre de demain. C'est un truc.
De la guerre de demain, un pays effectivement d'une population.
Je suis d'accord avec vous. Romain, je suis tellement content que vous reveniez à la rentrée. Denis.
Alors je continue.
Ah non, on n'a pas le temps.
Je voulais le citer, pas parce que ça a un impact très positif sur l'Union européenne, sur l'Europe. Le jour où il y aura une paix ou une fin des hostilités en Europe, on verra les capitaux étrangers revenir, je pense, vers notre continent. Et là, on en a besoin.
Denis.
Oui, mon dernier rapidement. Oui. L'Allemagne, parce qu'en début d'année, tout le monde se disait, mais combien la croissance allemande qui va redémarrer va donner comme impulsion à la croissance française?
C'est ce que je disais, c'était la question que je posais.
Il y en a pas.
Donc je suis le flop. Non. Parce que c'est moi qui ai posé
Non, parce
question.
Que, parce que moi, je disais que l'Allemagne allait nous mettre 6-0, 6-0 avec sa relance de l'investissement.
Bah oui, moi aussi.
Alors là, moi, c'est fou carré.
Allez, on passe tout de suite au top 3. Merci beaucoup. Le top 3, bah, toujours les mêmes. Frédéric Rosier en tête avec 19,7%. Alain Juste derrière, Alain Pitou et Pierre Chang, 14,7%. Bon, Pascal, elle sourit, j'ai envie de lui faire peur. Mettez-moi la musique qui lui fait peur. Et puis, on va afficher son portefeuille. Donc, Pascal. Vous avez du... Ah non, bah, ça c'est Romain. Allez, on commence par Romain, c'est pas grave. Alors Pascal, on a du Visa.
Ouais, je garde.
On a du SML.
Je garde.
On a du Microsoft.
Pareil.
On a du Infineon.
Finalement, je garde.
On a du Alphabet.
Je garde.
On a du Richemont.
Richemont, bah, je garde.
On a du Chénière.
Chénière Énergie, je garde.
Ferrari.
Ouais, ouais.
Eaton.
Pareil.
Marsh McLennan.
Pareil.
Iberdrola, vous gardez tout?
Ouais, je garde tout.
Uber. Datadog. BYD.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on achète?
Bah, je vais rester cohérente, j'achète Samsung.
Donc, ah ouais?
Ouais. Ah, je sais. Okay. C'est vous qui avez peur maintenant, je crois.
Ah ben là, vous me faites rude, hein, Marc. Alors, ah ouais, là, vous me faites très peur, là.
Je vais aller très vite, mais j'avais quand même envie de dire une mini-anecdote. C'est une boîte, en fait, qui a été créée en 1938 par un gars qui avait 27$ en poche et qui vendait des nouilles. Je trouve ça génial. Bref, après, il s'est passé plein de choses, mais l'entreprise a commencé à se diversifier vers ce qu'elle est aujourd'hui, dans les années 60-70, quand l'électronique commençait à être à pénétrer les ménages, etc. Aujourd'hui, c'est le premier fabricant au monde de puces mémoire, deuxième fabricant au monde de smartphones. Et comme vous le savez, vous avez sûrement une télé ou un téléphone chez vous de la marque. Donc, c'est aussi tout ce qui est électronique grand public. Pourquoi ça nous intéresse? D'abord, parce que la valorisation reste quand même très attractive, notamment par rapport à ses concurrents. C'est évidemment une valeur qui est très exposée à l'IA et qui est en train de complètement répondre à cette demande dingue de besoins en mémoire, en puce, etc. Les barrières à l'entrée sont évidemment très importantes. Ils diversifient leurs revenus avec aussi l'électronique grand public, notamment. Et c'est un bilan qui est extrêmement solide, extrêmement sain. Donc, voilà, c'est pas une valeur, c'est volatile. Faut pas regarder tous les jours, c'est une valeur.
Là, il vaut mieux pas regarder tous les jours, parce que alors là.
Oui, il y a de la volatilité, je suis d'accord. Après, la question que j'ai envie de me poser très vite, et on pourra en reparler si vous me réinvitez.
Non.
Est-ce que c'est des valeurs qui étaient avant cycliques, qui sont en train de plus être cycliques? Et là, si c'est le cas, c'est une vraie opportunité.
Allez, on va faire peur à Romain, mais lui, pour lui faire peur, franchement, c'est dur. On a eu Alten.
Oui, on va garder. C'est une victime de l'intelligence artificielle. C'est comme Accenture. Son cours est très faible. C'est une société
Accenture,
pas endettée.
Accenture, mais c'est incroyable.
Incroyable, ben voilà.
Incroyable. Parce que ça a perdu, mais c'est dingue. Quoi.
C'est LDC. LDC, alors ça, c'est du poulet en France. Ouais. C'est une société familiale très bien gérée, qui n'a pas de dette.
On les aime beaucoup. Allez, on va aller rapidement. Vous nous dites si on garde ou pas. Canal+, on garde.
On garde.
Erste, Emeis, Elis, Saint-Gobain, Strabag. On garde.
On garde.
Qu'est-ce qu'on achète?
On achète Eurobank.
Ah, bah là, vous êtes
cohérent. Vous parlez des financières, donc voilà, j'ai réussi à trouver une financière. Eurobank, banque grecque, une des quatre grandes banques grecques.
Alors, attendez, si on m'avait dit un jour, si on m'avait dit un jour qu'un gérant comme Romain Burnand dirait un jour, il faut acheter une banque grecque. Vous vous rendez compte, le chemin qu'on a fait, c'est incroyable.
Il y a fait du grand chemin.
Non, mais bah, il y a 15 ans,
c'est les Grecs. C'est les Grecs qui ont fait du chemin.
Bah ouais,
mais c'est leur système qui s'est rétabli. C'est bien sûr les.
Vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable.
C'est incroyable,
quoi.
Oui.
On se demandait, est-ce qu'on les garde dans la zone euro?
Alors, en tout cas, les indices, les ont pas gardés dans les indices européens. C'est un indice émergent. Donc, ça pourrait aller dans votre sélection. Mais c'est un jour, ça va revenir dans les indices européens.
La Grèce est dans les indices émergents.
Dans les indices émergents, des grands indices MSCI et Financial Times, mais ils vont revenir.
Ouais.
C'est prévu qu'ils reviennent. Ça fera peut-être quelques flux. Alors, les émergents, peut-être, les investisseront. Surtout, les banques grecques et Eurobank, c'est des banques qui sont bien gérées, qui ont des rentabilités sur fonds propres très importantes, qui ont des excédents de fonds propres et qui font de la croissance grâce à leur économie, grâce aussi.
Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, une banque grecque qui est en faillite, il y a 15 ans, aujourd'hui, vous nous dites c'est super bien géré. C'est quoi le miracle?
Alors, le miracle, c'est que les banques grecques ont toutes fait faillite, ont été recapitalisées plusieurs fois. Il y a eu ça a été un long chemin. Et en fait, les agents économiques grecs, donc les entreprises et les particuliers, ceux qui étaient très endettés ne veulent plus d'endettement et de toute façon ne sont en général plus là. Il n'y a que des gens qui sont risque adverses. Donc, vous avez en fait très peu de défauts sur les crédits. Alors, en Europe aussi, hein. Donc, et vous avez quand même beaucoup d'infrastructures à construire, qui sont en train d'être construites. Bien sûr, des aides européennes qui continuent. Et maintenant, une économie qui a repris de l'entrain et des gens qui sont très prudents dans leur activité.
Je trouve ça juste complètement génial, quoi.
Donc voilà, après, on réécoute les
émissions qu'on a fait il y a 15 ans.
Je serais comme vous, après les booms et les busts, il y a des renaissances et voilà.
Bah ouais, c'est quelle renaissance! Quelle renaissance fantastique. Merci à tous. Bon, on se dit adieu alors. Bah, Romain, on se revoit très bientôt.
Bien sûr,
vous viendrez toutes les semaines.
On va toutes les semaines.
Merci à tous nos invités. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera spéciale, très spéciale même. On va parler d'un sujet qui est les introductions en bourse. On en a parlé un peu aujourd'hui avec SpaceX. Et puis, on va se poser la question de savoir avec Euronext, avec la BPI, avec des gérants, avec des sociétés cotées, on va leur dire pourquoi eux, ils arrivent à lever des milliers de milliards sur des valorisations de milliers de milliards et pourquoi nous, on a trois petites introductions en bourse à Paris et qu'est-ce qui fait la différence et comment on peut relancer tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast pour combattre un nouveau record en juin.
C'est votre argent sur BFM Business.